Cette histoire du massacre des innocents est bien curieuse. En effet, nous avons la bonne nouvelle de la naissance du Christ. Pourquoi cette bonne nouvelle nous est-elle présentée dans Matthieu avec cette histoire d'un massacre épouvantable de tous les petits bébés de moins de 2 ans? C'est très curieux parce que je ne vois pas très bien ce que veut nous dire l'Évangile. Bon, si la naissance de Jésus est une bonne nouvelle, admettons, mais en tout cas, ça n'a a priori pas franchement été une bonne nouvelle pour les petits bébés assassinés. Alors, qu'en est-il? Certains disent, ben écoutez, c'est parce que ça a été comme ça, c'est un fait historique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a eu probablement un massacre de bébés fait par Hérode, et par conséquent, l'Évangile n'est pas là pour nous dorer la pilule, mais il raconte les choses comme elles étaient. Cet argument est douteux. En effet, aujourd'hui, les historiens ont de gros doutes sur l'historicité de cet épisode. Et ils disent que s'il y avait eu une sorte de génocide d'enfants comme ça dans une province de la Judée, eh bien, on en aurait des traces dans les textes de l'époque. Or, il n'en est nulle part mention, donc ça semble plutôt douteux. Alors, comme je ne suis pas aussi libéral que ceux qui disent ça, mais je ne suis pas totalement naïf, je crois que la solution est la suivante. C'est que j'ai tendance à penser que ces récits de l'Évangile ne sont pas des romans, ni des sortes de contes et légendes, et que si l'Évangile le raconte, c'est qu'il y a quelque part dans les esprits le souvenir d'un épisode qui a dû être de cet ordre-là. Et il est tout à fait possible qu'effectivement il y ait eu à un moment donné une sorte de mouvement populaire faisant dire que un Messie était né dans tel village, et il est très possible que Hérode ait réagi brutalement. Mais vous savez, Bethléem, déjà aujourd'hui, ce n'est pas un grand village, mais à l'époque, il devait y avoir quelques dizaines de familles, et donc ça faisait combien de bébés de moins de 2 ans? Peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, mais enfin, ce n'est pas ces tableaux du 19e siècle où on voit le sol jonché de milliers d'enfants égorgés, et donc probablement que c'était un épisode évidemment sanglant, mais peut-être pas aussi important que ce qu'on aurait pu croire, et qui en tout cas ne méritait pas qu'on en fasse mention dans les recensions de l'époque. Donc probablement que la chose a eu lieu, mais peut-être pas de l'importance qu'on dit. Mais alors pourquoi est-ce que Matthieu prend la peine de nous le raconter? Et en effet, sans doute, y a-t-il là-dedans un sens théologique à cette question, et que cette histoire, d'une certaine manière, prend valeur de parabole. Alors là, si on veut s'interroger sur le sens des textes, ça m'intéresse déjà beaucoup plus. Ce que l'on dit habituellement, dans les commentaires de première approche, c'est que Jésus, qui est obligé d'aller fuir en Égypte avant de revenir dans sa terre, d'une certaine manière, fait le même mouvement qu'a dû faire le peuple d'Israël dans l'ancien temps, où il est parti avec Jacob en Égypte, et puis il reviendra, en effet, avec Moïse. Et donc Jésus, de cette manière-là, est montré comme incarnant l'histoire même du peuple d'Israël. Et ainsi Jésus est montré celui qui est vraiment l'image même de l'ensemble du peuple, et il n'est donc pas un électron libre venant de n'importe où, il est l'accomplissement de toute l'histoire d'Israël et de toutes les promesses de l'Ancien Testament. Ça va même plus loin, puisque au moment où Joseph doit revenir, on trouve cette phrase: « Reviens dans ton pays, car tous ceux qui voulaient à ta vie sont morts. » Cette phrase, on la trouve déjà dans l'Ancien Testament. Et on la trouve en particulier avec Moïse. En effet, Moïse avait dû quitter son pays aussi, avec exactement la même phrase que là, enfin c'est la même chose. En Exode 2:20, on dit « Moïse, quitte ton pays parce que le roi veut ta mort. » Et Moïse s'en va, et ensuite, quand il revient, on lui dit « Reviens dans ton pays, car ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Et ainsi, les gens disent, ben voilà, Jésus est présenté comme le nouveau Moïse. Donc non seulement il incarne le peuple, mais il est aussi le nouveau Moïse, celui qui va donner une nouvelle loi, créer une nouvelle alliance, et de nouveau, la parole de Dieu va parler par Jésus. Et en effet, quelques versets plus loin, Jésus monte sur la montagne, comme Moïse sur le Sinaï, et dit le sermon sur la montagne. Bon, ça c'est très bien, mais pour nous aujourd'hui, ça ne me parle pas énormément, parce que je ne vois pas très bien comment je peux en tirer des leçons pour ma propre vie, et donc je vais chercher plus loin. Je cherche plus loin en disant, en me disant la chose suivante de ce qu'il apparaît. D'abord, on peut le prendre dans le bon sens. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est un scandale que la bonne nouvelle entraîne le massacre, mais je pourrais dire le contraire. Le massacre n'a pas empêché la bonne nouvelle du Christ. C'est-à-dire que finalement, on voit là la méchanceté d'Hérode, la violence des puissants, qui est un fait du monde, où que ce soit, je dirais, près de nous, auprès ou au loin, dans le monde, en France ou ailleurs, il y a cette violence, cette méchanceté de ceux qui veulent détruire, faire du mal, etc. Eh bien, ce mal a été incapable de détruire le Christ. Donc c'est quand même, vous voyez, certes ce mal fait du dégât, on va y venir, mais néanmoins le Christ échappe. Et j'aime cette idée que le mal, voyez-vous, justement, est impuissant devant le Christ. Et même si le Christ paraît une réalité faible, fragile, vulnérable, eh bien l'Évangile, le Christ, résiste aux choses les plus méchantes et les plus atroces et les plus abominables et traverse les massacres. Et plus que cela, parce que ce massacre a lieu, c'est bien dit, parce qu'Hérode s'est renseigné auprès des mages qui étaient les scientifiques qui savaient tout ça, qui étudiaient les étoiles. Eh bien, même la science, même la violence, la méchanceté servie par la science n'arrive pas. La science ne peut rien faire contre ça. Et ça, c'est pour moi une bonne nouvelle. Oui, il y a du mal, il y a des volontés mauvaises dans ce monde, il y a une science qui aussi, d'une certaine manière, peut nous menacer, mais tout cela ne suffit pas à déjouer les plans de Dieu, et toujours le Christ arrive à échapper à cela. Parce que l'œuvre du salut de Dieu est plus puissante que tout le mal possible, et Dieu, de toute manière, trouve des solutions. Il contourne, certes, mais il revient, et il accomplit sa volonté. Et donc j'ai confiance, oui, le Christ échappe à tout cela et il peut sembler s'éloigner, mais il revient et finalement il accomplit ce pourquoi il était venu. Et en effet, ça me semble assez important. Le mal, l'épreuve, la mort, là j'ai parlé un peu dans le monde, mais même dans nos propres vies, parce que nous avons tous effectivement des violences ou des choses difficiles à vivre, et bien tout cela ne peut pas empêcher le Christ ni empêcher le Christ de jouer son rôle de sauveur pour nous. On pourrait même dire d'ailleurs aussi que ce texte est intéressant, parce que par-delà cette bonne nouvelle que je viens de vous exprimer, elle permet de donner une réponse à ce qu'on appelle le problème du mal. Parce qu'en effet, ce que l'on voit là, c'est que le mal, c'est-à-dire ce massacre, n'est évidemment pas voulu par Dieu. Mais oui, mais c'est déjà important. Tant de théologiens ont dit, si le mal arrive, c'est que Dieu l'a voulu. Non, Dieu ne veut pas le mal. Le mal n'est pas ce qui est voulu par Dieu. Le mal, la violence et la haine, c'est au contraire ce qui s'oppose au projet même de Dieu. Vous voyez, ça me permet de définir une chose très claire. Par définition, le mal est ce qui s'oppose au projet de Dieu. Par définition, le mal n'est pas la volonté de Dieu, jamais la volonté de Dieu. Mais, cela dit, patience, le mal ne sera jamais vainqueur, parce que Christ échappe et il revient. Alors ça, c'est vrai dans le cours du monde. Dieu n'est pas du côté des morts, Dieu n'est pas du côté des souffrances, des massacres ou autres. Au contraire, c'est même contre lui. Et je dirais même que, par-delà les grands massacres, chaque fois qu'on fait du mal à l'un de ses plus petits, pour ça j'aime ces petits innocents, chaque fois qu'on fait du mal à l'un de ses plus petits, c'est comme si on voulait tuer Dieu. Mais patience, Dieu ne se laisse justement pas vaincre par le mal. Et dans notre vie à nous aussi, vous disais-je, le mal qui nous arrive n'est jamais la volonté de Dieu. Et la réponse est la même chose, patience. Patience. Patience avec aussi une chose dont j'ai déjà parlé il y a quelques semaines, qui est la valeur de la fuite. Il faut s'écarter de ceux qui nous font du mal. On n'est pas forcé de tout affronter. On n'est pas forcé d'aller à la bagarre. Mais Joseph a la sagesse de dire, on veut tuer l'enfant, eh bien je m'en vais. je laisse la place. C'est une intelligence et peut-être parfois un courage de savoir s'écarter de ceux qui nous font du mal. Si on peut lutter, on lutte, hein, mais Jésus n'avait pas beaucoup de moyens de lutter contre Hérode. Et puis par ailleurs, dans les épreuves, Dieu peut sembler s'éloigner, comme là où Jésus s'en va avec Joseph en Égypte. Dieu peut sembler s'éloigner parfois quand on est confronté au mal, on peut croire que Dieu est loin. En fait, non, ce n'est que pour un temps, les épreuves ne durent pas toujours. Patience, le mal n'aura pas le dernier mot. Patience et espérance, Jésus reviendra. Et ce sont les vraies valeurs de l'Évangile, la patience et l'espérance. Deuxième bonne nouvelle que je vois là-dedans, c'est que on tue tous les bébés, mais le Christ réchappe. Cela veut dire que le spirituel n'est pas atteint par la mort physique. Hérode fait une violence physique, il applique la mort physique, mais le Christ réchappe à tout ça. Et ça, c'est ce que nous enseignons finalement, de dire qu'effectivement, il y a en nous une dimension christique ou spirituelle qui échappe à la mort. La mort peut tuer notre corps, mais elle ne peut pas tuer notre âme, ni ce qui en nous est uni au Christ. On a exactement la même idée à la fin de la vie de Jésus, quand Jésus embête les pharisiens, et le chef des pharisiens dit, c'est très simple, on va tuer Jésus, et en le tuant physiquement, on va arrêter tout ça. Eh bien, on tue Jésus physiquement et on n'arrête rien, rien du tout. Parce que le Christ ressuscité montre qu'il a une puissance qui, une fois de plus, traverse la mort. Et aujourd'hui, nous prêchons encore que Christ est vivant. Oui, les pharisiens l'ont tué, eh bien non, ils n'ont rien tué du tout. Ils ont tué une dépouille corporelle qui reste sur une croix, peu importe, mais l'essentiel traverse la mort. Donc c'est ça l'essentiel, Christ est plus fort que la mort physique et plus fort que tout le mal terrestre. Et dirais-je, tout ce qui en nous est uni au Christ, en est de même, est aussi plus fort que tout le mal terrestre qui peut nous être fait. Ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort, rien ne peut atteindre notre être spirituel qui est en Dieu. Et ça, c'est une idée fixe de l'Évangile, on le trouve en Matthieu 10, 28, quand Jésus dit, nous l'avons entendu tout à l'heure, « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent rien faire à votre âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent tuer l'âme. » Ou alors ce magnifique chapitre 8 de l'Épître aux Romains, quand Paul dit « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la vie, ni la mort, ni les puissances, ni les méchants, ni quoi que ce soit, ni rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. » Donc nous avons en nous un petit Jésus qui est un être intérieur invisible qui ne peut être atteint par rien de terrestre. Et même si on perd des plumes au passage avec tous ces pauvres innocents qui meurent, Jésus, lui, et tout ce qui est uni au Christ reste éternellement vivant. Alors voilà, ensuite ça nous apprend aussi, cette histoire nous apprend aussi des choses sur Dieu lui-même. C'est-à-dire comment Dieu réagit-il par rapport à ce qui n'est pas sa volonté. J'avais laissé la question un peu en suspens. Je vous ai dit, le mal est par définition quelque chose qui s'oppose à la volonté de Dieu. Maintenant la question, comment Dieu réagit-il par rapport au mal? Ce texte nous en apprend beaucoup, parce que depuis les premiers temps du christianisme, les commentateurs se sont interrogés sur cette histoire, en se disant, c'est quand même bizarre, hein, parce que si Dieu est vraiment tout-puissant, il aurait pu simplement empêcher qu'Hérode tue les bébés. C'était beaucoup plus facile que d'être obligé de fuir en Égypte sur un âne. Et donc, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas empêché? Eh bien, la réponse des théologiens d'aujourd'hui, c'est de dire, eh bien, ce texte nous montre que justement, Dieu n'intervient pas dans le monde à la manière d'une divinité toute puissante. C'est-à-dire que Dieu, finalement, n'intervient pas brutalement dans le monde pour empêcher le mal. Soit qu'il ne le puisse pas, c'est-à-dire que Dieu ne serait pas tout-puissant en quelque sorte, soit qu'il ne le veuille pas. Ou alors, si vous voulez sauvegarder la toute-puissance de Dieu parce que vous l'avez apprise au catéchisme, pourquoi pas, je dirais que peut-être que Dieu arrive finalement à ses fins, mais ça lui prend du temps. Autrement dit, Dieu est peut-être tout-puissant, mais il ne peut pas tout de suite. Et il lui faut du temps, et tout ça c'est un processus, Et lutter contre le mal n'est pas une chose rapide, ça prend du temps. Il faut agir avec ruse, avec intelligence, avec patience, avec discernement. Et Dieu finalement arrive à ses fins, ce qui est l'essentiel, donc il arrive à faire sa volonté, mais pas tout de suite. Et puis je dirais au passage que cette volonté de Dieu va aussi s'accomplir grâce à d'humbles serviteurs qui, comme Joseph, se mettent à l'écoute de Dieu. Donc finalement, Dieu n'empêche pas le mal directement, mais il permet que de toute manière, le germe de vie soit sauvé et que la vie soit possible. Et c'est ce que je dirais à ceux qui sont les plus éprouvés. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché qu'il m'arrive ceci et cela? Eh bien ça, je ne sais pas. Moi, je crois qu'il ne pouvait pas l'empêcher. Mais ce que Dieu peut faire en sorte, c'est que de toute manière, en vous, le germe de vie soit là. Et donc, de quoi qu'il arrive, la vie est possible. Et il y a possibilité de quelque chose qui traverse la mort, qui traverse tous les massacres, toutes les épreuves, toutes les injustices. Et ce qui traverse ça, c'est ce qui est uni au Christ. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous ai lu la suite de la prophétie de Jérémie. Qu'est si désespérante, Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée. Mais la suite de la prophétie, elle est extraordinaire. Elle dit, ne désespérez pas, parce que, dit-il, il y a de l'espoir dans ta vie, et Dieu changera les larmes en une danse. Alors c'est curieux que Matthieu n'ait pas cité la suite de la prophétie de Jérémie. Mais moi je pense qu'il s'adressait à des gens qui la connaissaient par cœur. Et donc on entend un début désagréable et on sait que, patience, une fois de plus, Dieu changera tes larmes en joie. Et puis enfin, dernier point, c'est que la venue du Christ génère un massacre. C'est un peu embêtant, mais il faut le savoir. Et je crois que c'est comme ça, c'est à peu près inévitable en quelque sorte. Parce que tout salut, toute progression a toujours une contrepartie de mort et de difficulté. Certes moindre, mais néanmoins existante. Et donc oui, la naissance du Christ génère des troubles et des massacres. Mais c'est normal parce que, je dirais, comme s'il y avait un prix à payer, autrement dit, pour que le bien apparaisse. Mais ça, c'est vrai dans toute la vie. Vous voulez apprendre à jouer du piano, eh bien vous devrez suer sang et eau sur votre clavier pour travailler, pour progressivement arriver à quelque chose. Vous voulez être un grand sportif, faire des records de course à pied ou être un grand cavalier, eh bien si vous ne vous donnez pas de mal, vous n'arriverez à rien. C'est-à-dire que le bien ne tombe jamais comme ça, sans prix, je dirais, sans contrepartie de quelque chose. Et évidemment, le salut de l'humanité ne peut pas arriver sans qu'il y ait quelque chose qui contrebalance et donc sans une certaine mort et une certaine souffrance. Les scientifiques appellent ça l'entropie. Ils disent que de toute façon, le désordre global du monde reste identique et que s'il y a un progrès quelque part, c'est au prix d'un désordre d'une autre manière. On ne peut pas y échapper. Et ceux qui éduquent des enfants savent que avant qu'un enfant soit bien élevé, il faut qu'il ait fait beaucoup de désordre. Et donc, plus votre enfant casse des choses à la maison, plus il fait du désordre, plus il fait du bruit, plus il met, etc., eh bien, c'est comme ça qu'il apprend, parce que tout apprentissage suppose qu'on le paye d'un prix de désordre. De même, vous voulez partir en vacances à Saint-Tropez avec votre voiture, eh bien, vous polluez la planète. C'est comme ça, tout a un coût. Et donc, la naissance du Christ, forcément, a un coût. Alors, ça, c'est comme ça, mais donc on ne peut pas y échapper. Et il faut le savoir, mais d'une autre manière, ça doit nous apprendre aussi, pour nous, que si nous voulons accueillir le salut, et si nous voulons progresser dans notre vie, il faut accepter qu'il y ait, d'une certaine manière, un peu de désordre dans notre existence, ou que ça entraîne en nous des sacrifices, parce que ça a forcément un coût. Et donc on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas à la fois avoir des jolis enfants et dormir tranquillement. C'est comme ça. On ne peut pas à la fois se dire, moi je vais avoir le Christ dans ma vie, je vais avoir l'espérance et la vie éternelle, et espérer que vous puissiez continuer de vivre tranquillement, sans vous poser aucune question, sans vous préoccuper des autres, sans rien donner aux pauvres, sans jamais aller servir qui que ce soit, et en restant dans votre confort et votre égoïsme. Ça n'est pas possible. De toute façon, à un moment donné, si on veut accueillir le Christ, ça génère des sacrifices. C'est comme ça. Et le monde nouveau même, le monde nouveau ne peut advenir si on continue de prétendre qu'il faudrait tout garder de l'ancien. On ne peut pas à la fois tout avoir en main, se dire « je veux que tout reste comme c'est » et qu'en même temps on arrive à un monde nouveau. Si on veut le monde nouveau, il faut à un moment donné renoncer à l'ancien. Il faut se tourner vers l'avenir résolument et être en marche, avancer autrement dit. Il faut laisser les choses anciennes derrière soi, il faut se délester, se détacher. Et pour, même pour sa propre vie, si on veut une vie nouvelle, renouvelée, et on ne peut pas avoir une vie nouvelle en restant comme on est. Il faut, comme dit Paul, mourir en Christ pour pouvoir ressusciter avec lui. C'est aussi ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean, « Si le grain ne meurt, il reste seul. » Jean 12, 24. Donc voilà, la venue du Christ entraîne des bouleversements et des morts parce que, effectivement, le Christ n'est pas du monde. Le Christ, c'est justement, l'Évangile est un fonctionnement qui n'est pas le fonctionnement du monde, parce que le fonctionnement du monde, c'est l'égoïsme, c'est le profit et c'est son propre intérêt. Et l'Évangile, c'est le contraire. C'est le don, c'est l'ouverture à l'autre et c'est le sacrifice de soi. Et donc il y a une sorte d'antinomie entre les deux. Et dès le moment que l'Évangile rencontre le monde matérialiste, ça fait des problèmes, ça fait des dégâts, c'est comme ça. Mais ce sont de bons problèmes, je dirais. Parce que l'amour, le don, le partage, la préoccupation de l'autre blessent sans arrêt notre égoïsme, notre confort, notre désir de possession, il faut le savoir. Et si dans notre vie, le fait d'être chrétien ne change rien, ben, faut plutôt s'en inquiéter, vous dirais-je. C'est peut-être le signe que le Christ n'est pas venu vraiment. Donc oui, on perd beaucoup matériellement et tout est anéanti, mais reste une chose, la présence du Christ. Présence faible, dérisoire, méprisée du monde, chassée des hommes, mais germe de vie, de salut, de joie et d'éternité. Et notre foi, eh bien, c'est cette petite présence du Christ. Et croire que cette petite présence du Christ vaut plus que tous les trésors de l'humanité. Parce que c'est un germe de vie et toujours une possibilité de retrouver l'espérance et la vie. C'est une graine dans nos existences, une graine de vie éternelle, de joie et de lumière. Alors vous disais-je, il faut choisir, on ne peut pas tout garder. Et c'est maintenant à nous de choisir. Est-ce que nous choisissons la multiplicité du monde ou de garder l'unité du Christ? Et être prêt, comme Joseph et Marie, puisque si on pense à eux même, être prêt peut-être même à tout quitter, comme eux, pour aller en Égypte, quitter son confort, quitter ses habitudes, pour aller sauver ce Christ qui devrait être en nous, tout mettre en œuvre pour sauver cette fragile présence de la foi qui est en nous, qui est peut-être toute petite et faible comme un enfant, mais qui est la plus précieuse des choses, parce qu'elle est germe de vie, promesse, espérance et éternité. Amen.